Vous écoutez France Culture. Tout de suite le journal, Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le sort de 629 migrants à bord d'un navire au large de la Libye fait l'objet d'un bras de fer entre Malte et l'Italie qui se poursuit. Les deux pays refusent pour l'instant d'ouvrir leur port à l'embarcation qui est affrétée par une ONG française. Correspondance dans un instant de Mathilde Imberti. Les agriculteurs français bloquent depuis ce matin 16 sites pétroliers. Ils dénoncent l'autorisation de l'importation d'huile de palme pour le carburant. Précision, explication d'Anne-Laure Chouin et de Véronique Rebérotte. La rencontre entre les présidents américains et nord-coréens, prévue la nuit prochaine à Singapour. On ira sur place avec Grégory Phillips, commentaire analyse de Marie-Pierre Véraud. Le président américain qui a par ailleurs posté plusieurs nouveaux tweets ce matin pour s'en prendre à ses alliés après le sommet du G7 au Canada. L'Allemagne accuse Trump de détruire la confiance entre les alliés. Bilan du G7 dans cette édition avec Benoît Bouscarel. Les élus de droite et d'extrême droite protestent contre les prochains concerts du rappeur Medine au Bataclan. Il lui reproche d'anciennes chansons contenues dans un disque qui se concluait sur la chanson Djihad. Commentaire enquête d'Antoine Marette, l'invité de la séquence interview Michel Auferlet, sociologue spécialiste du patronat pour l'élection qui a lieu au sein du MEDEF aujourd'hui et dans la dernière partie de la Grande Table. Olivia Jesper.
Donald Trump, au lendemain du G7 qui a réuni les chefs d'État des 7 économies les plus fortes du monde. Donald Trump est-il le symptôme du démondialisation annoncée ou est-il le symptôme surtout d'un repli qui en tente plus d'un? On en parlera avec nos invités. Philippe Moreau-Desfarge qui publie La tentation du repli, mondialisation, démondialisation chez Odile Jacob, en discussion avec l'économiste Jacques Sapir. Ils seront avec nous à partir de 12h55.
L'Aquarius restera-t-il dans l'histoire comme le nom symbole de cette errance en mer des migrants entre l'Europe et la Méditerranée? 629 d'entre eux secourus par une ONG française, dont 7 femmes enceintes d'ailleurs et 11 enfants en bas âge, se trouvent toujours entre l'Italie et Malte à la recherche d'un port où accoster. Hier, le nouveau ministre de l'Intérieur en Italie, Matteo Salvini, refusait que le navire accoste dans un port de la péninsule. Il avait demandé à Malte de l'accueillir. Réponse matin du gouvernement maltais, eh bien Malte ne recevra pas ce navire en question dans ses ports. Pour avoir un point sur la situation dans cette embarcation, Valérie Crova vient de joindre Fabienne Lassalle, la directrice adjointe de cette ONG SOS Méditerranée France.
Il y a un bras de fer politique qui est engagé avec Malte et je pense bien plus qu'avec Malte et dont nous sommes les otages. On est avec ces 629 personnes à bord, on cherche à débarquer quelque part, on a besoin qu'on nous indique un port de débarquement et celui-ci ne nous est pas donné.
Les autorités italiennes disent que c'est à Malte de respecter les conventions internationales sur la protection de la vie humaine.
Ce qui peut être aussi retourné parce que ce sont les autorités italiennes qui ont coordonné le sauvetage. Donc c'est aussi à elles de donner le port de débarquement.
Qu'est-ce qui coince aujourd'hui, à votre avis?
Certainement le souci de ne pas voir arriver sur les côtes italiennes de nouveaux bateaux avec des migrants. Il faut savoir que depuis 5 ans, ce sont plus de 100 000 personnes qui ont débarqué en Italie.
Et votre marge de manœuvre, alors c'est quoi aujourd'hui?
Notre marge de manœuvre, elle est extrêmement serrée. Nous avons à bord des vivres pour une journée, pas plus. Il faut savoir que nous sommes aussi en surcapacité, puisque la capacité d'accueil de notre navire est de 500 personnes. Nous sommes à plus de 600 personnes. La situation est extrêmement précaire, donc nous avons très rapidement besoin d'avoir une indication et des instructions pour pouvoir débarquer ces personnes dans un port sûr.
Fabienne Lassalle, donc, jointe au téléphone par Valérie Crova il y a quelques minutes. Mathilde Imberti, qu'est-ce qu'on peut attendre encore des autorités italiennes?
L'Italie maintient ses ports fermés pour l'instant, mais dans la mesure où c'est le centre de coordination romain, la navire militaire en fait, qui a la première répondu à l'appel au secours venu des eaux libyennes, c'est elle qui doit indiquer un lieu sûr pour débarquer. C'est ce qui se passe en temps normal, et dans les faits, l'Italie agit le plus souvent sans l'aide de Malte, qui ne coordonne pas les opérations de secours en Méditerranée. Quelle issue cette fois-ci pour le navire de SOS Méditerranée? Une réunion est en cours à Rome, autour du président du Conseil, Giuseppe Conte. Plusieurs maires en Italie se sont dit prêts à accueillir l'Aquarius, celui de Palerme, de Naples, de Livourne il y a quelques minutes. La situation est en pause. Ce midi, le ministre des Transports italien annonce l'envoi de 2 nouveaux patrouilleurs, soit 4 en tout, avec des médecins à bord pour assister les migrants en ayant besoin sur le navire. Un ministre qui assure d'un ton serein que les conditions à bord de l'Aquarius sont bonnes et qu'il reste des vivres.
C'est cette nuit à 3h, heure de Paris, que doit se dérouler la fameuse rencontre entre les présidents américains et nord-coréens. Elle pourrait très bien se passer, c'est ce qu'assure Donald Trump dans un tweet matinal. Kim et Trump sont arrivés hier soir à Singapour en prévision de ce sommet consacré en principe à la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le secrétaire américain, secrétaire d'État, Mike Pompeo, a donné il y a quelques minutes une conférence de presse que vous venez de suivre, Grégory Phillips, bonjour.
Bonjour Antoine.
Selon lui, les discussions avanceraient rapidement.
Oui, plus vite que prévu, même assure le secrétaire d'État Mike Pompeo, qui confirme que les délégations américaines et nord-coréennes ont tenu deux réunions de travail aujourd'hui à Singapour. Le chef de la diplomatie américaine se dit persuadé que le sommet de demain sera un succès, mais rappelle aussi que l'objectif des États-Unis reste le même. Un démantèlement de l'arsenal nucléaire complet, vérifiable et irréversible de la péninsule est le seul résultat que les États-Unis accepteront. Les sanctions seront maintenues tant que la Corée du Nord n'aura pas détruit son programme d'armes de destruction massive. Ces mesures seront renforcées si la diplomatie n'avance pas dans la bonne direction, comme nous l'espérons. Le président Trump reconnaît la volonté de sécurité exprimée par Kim Jong-un. Il est prêt à faire en sorte que la Corée du Nord, débarrassée de cet arsenal, vive en sécurité. En revanche, le secrétaire d'État ne donne aucun détail sur l'organisation de la rencontre de demain. Normalement, Trump et Kim Jong-un devraient d'abord se voir en tête-à-tête accompagnés de leur seul traducteur. Cet entretien pourrait durer 1 à 2 heures, puis les deux chefs d'État devraient être rejoints par leur délégation pour une réunion élargie. Et si tout se passe bien, il pourrait y avoir à la fin la signature d'un document, dit Pompeo, qui servira de cadre à de futures négociations. La rencontre de demain matin, toute historique qu'elle soit, ne sera qu'une première étape, martèlent les Américains.
Voilà, ça sera donc 3h dans la nuit à Paris. Grégory Phillips en direct de Singapour, merci beaucoup, avec Olivia Branger pour les moyens techniques. Qu'est-ce qu'il faut vraiment attendre de cette rencontre? Marie-Pierre Béraud, bonjour.
Bonjour.
Il faut dire que c'est parfois difficile maintenant d'anticiper, en raison notamment de la conduite du président américain.
Oui, c'est effectivement toute la question. Le plus important, ce serait donc une avancée sur l'avenir de l'arsenal nucléaire nord-coréen, un accord cadre peut-être qui fixerait des étapes, et puis autre dossier, un accord de principe pour mettre un terme à la guerre de Corée, soldée par un simple armistice en 1953. Mike Pompeo, on vient de l'entendre, a donc tempéré les ambitions des les deux dirigeants, se contenteront de fixer un cadre. Il n'est plus question d'accord historique à Singapour. Ce sera un processus. Ici, les États-Unis se disent désormais prêts à accorder des garanties de sécurité à la Corée du Nord. La question des sanctions économiques reste entière. Cela fait plus d'un quart de siècle que ce contentieux est ouvert. De précédents accords sur les mêmes termes en 1994 et en 2005 ont fait long feu. Les États-Unis étant d'ailleurs tout aussi peu fiables que la Corée du Nord dans le respect de leurs engagements. Cette fois, nous sommes dans une situation encore plus difficile à appréhender, car quel que soit le travail fait sur les dossiers, quel que soit l'accord même à minima, qui dit que Donald Trump ne le désavouera pas d'un tweet rageur. Comment peut-il aussi accorder ses exigences vis-à-vis de la Corée du Nord après avoir mis la barre très haut pour l'Iran, refusant tout programme balistique ou même nucléaire civil? La personnalité des deux dirigeants et surtout ce caractère impétueux et égocentrique de Donald Trump renforce, vous le disiez, les interrogations. La durée du tête-à-tête entre les deux hommes sera déjà une indication. Je pense qu'en moins d'une minute, je saurai, a déclaré le président américain, juste au contact, au sentiment, c'est comme ça que je fais. Et si je pense que ça n'arrivera pas, je ne vais pas perdre mon temps. Voilà à quoi nous en sommes réduits, à chronométrer leur tête-à-tête. Mais s'il y a tant d'incertitudes, c'est aussi parce que ce type de rencontre, normalement, intervient à l'issue d'un long processus de négociation. Une fois que les deux parties ont déblayé le terrain et sont quasiment d'accord, là, le sommet arrive avant. Alors vraisemblablement, car les deux hommes ont tout à perdre à un fiasco, il y aura quand même un engagement à démarrer un processus qui prendra, s'il ne déraille pas, de toute façon, de très longues années.
Voilà, et pas seulement une minute. Merci beaucoup, Marie-Pierre Véraud. En tout cas, dans l'avion qui le conduisait à Singapour, le président américain a posté plusieurs nouveaux tweets pour s'en prendre une nouvelle fois à ses alliés après ce sommet du G7 au Canada, critiquant par exemple les droits de douane canadiens sur les importations de lait américain. Il a affirme le commerce équitable devrait s'appeler commerce imbécile s'il n'est pas réciproque. Série de tweets donc qui continue ce matin. Pourquoi devrais-je, moi, comme président des États-Unis, permettre à des pays de continuer à faire des excédents commerciaux massifs pendant que nos agriculteurs, ouvriers, contribuables ont un prix à payer si fort et si injuste? Ou encore ce tweet, les États-Unis paient presque le coût total de la protection par l'OTAN de ces mêmes pays qui nous arnaquent sur le commerce. Ils ne paient qu'une fraction du coût. Moscou et en plus il rit. Réactions qui sont très vives parmi les partenaires donc, du G7, Benoît Bouscarel. On ne peut pas vraiment se plaindre que le G7 se termine cette fois par un consensus lénifiant.
Non Antoine. Souvenez-vous de la question qu'on se posait avant le G7. Le multilatéralisme avec Trump a-t-il un avenir? C'était la semaine dernière et on n'imaginait pas à ce moment-là pouvoir disposer aussi rapidement d'éléments de réponse concordants. Depuis, on sait, hein, la façon dont Donald Trump a torpillé ce sommet est tout à fait, comment dire, parlante. En quelques tweets, il a laissé 6 chancelleries sur le carreau et mis à mal une institution, le G7, vieille de plus de 40 ans. À Berlin, Angela Merkel se dit déprimée. À Paris, on en appelle à un peu plus de sérieux. Et à Ottawa, Justin Trudeau semble sonner après avoir été qualifié de traître et de faible par Donald Trump. Le Premier ministre canadien n'a pas encore officiellement réagi.
T'en as Trump qui est donc passé sur ce G7 et les questions demeurent.
Oui, alors on peut essayer de comprendre les raisons qui ont poussé Donald Trump à renier lui-même sa propre signature. Est-il à ce point obsédé par le multilatéralisme ou bien par son agenda électoral? La réponse, vous l'aurez compris, est dans la question. En face, ce matin, le ministre allemand de l'économie, Peter Altmaier, semble résigné. Il parle de la régression et de l'échec de ce sommet du G7 et il ne voit pas de solution immédiate aux différends commerciaux entre son pays et les États-Unis, tout en appelant à une action européenne résolue face à Trump. Action européenne résolue. En clair, donc, le multilatéralisme avec Trump, c'est pas jouable. Tout le monde en fait le constat. Peut-il en exister un sans lui ou à côté de lui? Cette réponse-là mettra beaucoup plus de temps à nous parvenir.
Benoît Bouscarel, 12h41 sur France Culture, l'actualité en France avec les agriculteurs bloquant depuis ce matin 16 sites pétroliers pour dénoncer notamment l'autorisation de l'importation d'huile de palme pour le carburant. L'accès au site Total de la Med dans les Bouches-du-Rhône est ainsi bloqué depuis hier soir par plusieurs dizaines d'agriculteurs, c'est un exemple. Jusqu'à 300 000 tonnes par an d'huile de palme doivent être importées pour alimenter la bioraffinerie qui doit démarrer donc dans cet endroit cet été. Ce matin sur RTL, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert déclarait que le gouvernement ne reviendrait pas de toute façon sur l'autorisation donnée à Total d'importer cette huile de palme. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, la France produit aussi des agrocarburants, mais plus chers. En fait, de quelle nature est la revendication des syndicats agricoles?
Alors, il dénonce un double langage, celui du gouvernement qui, d'un côté, permet à cette raffinerie de la Med de rouvrir et de l'autre, promet de s'engager au niveau européen pour mettre fin à l'utilisation de l'huile de palme. Mais plus largement, cette contestation s'inscrit dans la droite ligne de celle contre le TAFTA, le CETA et l'accord UE-Mercosur, autant de traités de commerce internationaux qui prévoient l'importation sur le sol français de grandes quantités de denrées alimentaires produites dans des conditions sanitaires bien moins drastique que ce qu'exigent les normes européennes. Du bœuf aux antibiotiques en passant par le maïs OGM, les agriculteurs savent que ces denrées coûtent parfois bien moins cher à produire hors d'Europe et que leur propre production risque de se retrouver mise en danger. Ils y voient là une forme de concurrence déloyale. Le tout dans un contexte où le gouvernement français demande aux agriculteurs de monter en gamme pour s'assurer du revenu. Or, qui dit monter en gamme dit production plus chère, quand d'un autre côté on autorise donc l'importation d'huile de palme, une huile dont on sait qu'elle est produite selon des critères économiques, sociaux et environnementaux, beaucoup moins exigeants que ceux demandés aux producteurs français d'agrocarburants, colza et tournesol notamment. Le hic, si l'on peut dire, dans cette histoire, c'est que l'intérêt des agrocarburants, y compris d'origine française, est sérieusement remis en cause parce qu'ils sont eux aussi polluants, on y reviendra, mais aussi parce qu'ils coûtent très cher aux contribuables français. Ces agrocarburants ont bénéficié pendant des années d'aides de l'État, au bénéfice presque unique du groupe agro-industriel Avril, ex-Sophie Protéol, groupe dirigé par l'ex-patron de la FNSEA elle-même, Xavier Belin. Une rente de situation critiquée d'ailleurs par la Cour des comptes. Des aides publiques qui se sont arrêtées en 2016, mais qu'il est question de réactiver pour une nouvelle génération d'agrocarburants.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Pardon, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, estime que le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, devrait démissionner au vu des boas qu'il avale. Et moi, effectivement, j'ai avalé un chat dans cette autorisation donnée à Total d'importer de l'huile de palme. Véronique Reverotte, bonjour.
Ça peut être facile, bonjour.
Je vais boire un petit peu pendant que vous allez faire votre papier.
Oui.
Bon, il apparaît quand même progressivement que ce mot valise de biocarburant conserve toute son ambiguïté et on peut même dire son caractère oxymorique.
C'est ça, parce que quand
quand on parle carburant, on pense pétrole, énergie fossile et donc effet de serre, réchauffement climatique, pas vraiment bio, tout cela. C'est pour cela d'ailleurs qu'on préfère depuis maintenant plusieurs années parler d'agrocarburant. Ça signifie le fait qu'il s'agit de carburant issu de la production agricole, pas bio, pas bon pour la planète pour autant. Alors on y a cru au départ, remplacer les carburants fossiles émetteurs de gaz à effet de serre par ces nouveaux carburants à base de colza français, on l'a entendu, ou d'huile de palme supposée renouvelable, semblait être la bonne idée pour lutter contre le réchauffement climatique. Problème, la réalité, c'est que pour produire ces agrocarburants, il faut augmenter les surfaces agricoles et ça se traduit par la destruction de zones forestières transformées en terres arables, une destruction elle-même génératrice de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent d'ailleurs dans les pays qui détruisent leurs forêts. De plus, cette déforestation avec des forêts qui partent en fumée met en péril toute une biodiversité. Elle affecte aussi le cadre de vie des populations. C'est l'exemple typique de l'huile de palme en Indonésie. Et puis, l'augmentation des cultures destinées à la production des agrocarburants fait sur place grimper aussi le prix des denrées alimentaires en faisant diminuer les réserves alimentaires mondiales. Agrocarburants, exportation accrue peut aussi rimer avec pénurie alimentaire dans les pays producteurs. Ça finit par faire beaucoup de nouveaux problèmes sans régler celui des carburants fossiles, la fausse bonne idée par excellence.
Véronique Robérotte, merci. À partir d'aujourd'hui, la neutralité du net n'existe plus aux États-Unis. La neutralité, c'est le principe fondamental, fondateur même d'Internet, qui garantit que des fournisseurs d'accès ne donnent pas la priorité à un site plutôt qu'à un autre. Sur leur bande passante, Barack Obama s'était assuré en 2015 que ce principe serait maintenu, mais la Commission fédérale des communications a décidé de s'en débarrasser pour certains. C'est la fin donc d'un Internet libre et ouvert. Catherine Pétillon, la chose, si c'est vrai, mérite vraiment d'être soulignée.
Oui, c'est vrai. Si la date d'aujourd'hui marque un tournant important, c'est qu'elle signe aux États-Unis la fin probable d'un Internet égal pour tous. Ce que décrit assez mal l'expression neutralité du net, c'est ce grand principe consistant à offrir un même traitement à tous les fournisseurs de contenu. Or, désormais, les opérateurs ont le droit de privilégier certaines données par rapport à d'autres, concrètement en proposant des tarifs différenciés et en faisant payer plus ceux qui veulent que leur contenu continue à circuler vite. Ils peuvent ainsi favoriser leur propre service. Voilà qui risque d'être lourd de conséquences, surtout pour les petits services qui n'auront pas les moyens de payer ou de négocier, et donc au final pour la liberté de choix des utilisateurs d'Internet, même si en pratique les internautes américains pourraient ne voir le changement que d'ici quelques mois. C'est l'autorité américaine de régulation des télécommunications, la FCC, qui est revenu sur la protection officielle de ce principe adopté par l'administration Obama, prenant clairement le parti des opérateurs principaux opposants à la neutralité du net. Ces derniers avancent avoir besoin de revenus supplémentaires pour développer des infrastructures et répondre à l'augmentation du trafic. Sur le terrain légal, la contestation de cette décision continue. Dans le système fédéral américain, c'est désormais au niveau des États que se joue la résistance. Les États de Washington, de Californie ou de l'Oregon, par exemple, encore la ville de New York, ont fait voter des lois pour protéger la neutralité du net dans leur juridiction.
Catherine Pétillon, merci beaucoup. On termine la partie journal de cette édition avec cette polémique autour des prochains concerts du rappeur Medine au Bataclan. Certains élus de droite ou d'extrême droite lui reprochent d'anciennes chansons contenues dans un disque qui se concluait sur la chanson Jihad, dans lequel le rappeur scandait « Mon combat est éternel, celui de l'intérieur contre mon mauvais moi-même ». Aurore Berger produit aussi un passage de la chanson « Don't laïque, crucifions les laïcars comme à Golgotha », titre dans lequel le rappeur à vrai d'origine algérienne disait également « mettre des fatwas sur la tête des cons ». Antoine Naret, bonjour.
Bonjour.
La polémique enfle sur les réseaux sociaux. Vous avez pu voir le dossier de près. Quels sont les éléments de ce dossier?
Alors effectivement, il y a chez ce rappeur un mélange de provocations et de messages. Et ce sont ces provocations qui sont désormais montrées du doigt sans tenir compte de leur chronologie. Comme ce sabre représentant le J de son album Jihad. La pochette réapparaît sur les réseaux sociaux et choque à l'heure de Daesh, sauf que cet album est sorti il y a 13 ans, bien avant l'apparition de l'État islamique. Autre titre, autre polémique, Dant laïque, dans lequel on peut entendre, vous l'avez dit notamment, crucifions les laïcars comme à Golgotha, ou encore mettons des fatwas sur la tête des cons, des mots qui mettent mal à l'aise après l'attaque de Charlie Hebdo, sauf que le titre est sorti une semaine avant l'attentat. Et puis il y a ce second degré, cet humour noir que chacun sera libre d'apprécier ou non. Un exemple, si j'applique la charia, les voleurs pourront plus faire de main courante. Mais malgré ce second degré, ces provocations, il y a derrière ces paroles un message que l'on pourrait qualifier d'identitaire. Medine est musulman, il le revendique, il s'attaque à la laïcité qui, selon lui, ne serait qu'un prétexte à l'expression de l'islamophobie. Exprimer ce message et ces provocations dans une salle emblématique de la barbarie djihadiste choque, Ce sont d'abord l'extrême et l'ultra-droite qui se sont indignés. La droite a suivi et désormais même le patron du PS, Olivier Faure, juge le texte de Médine sur la laïcité, je cite, insupportable. Dans la matinée, deux avocats des familles de victimes du Bataclan réclament l'annulation des concerts. Pour cela, si le rappeur et les responsables de la salle maintiennent les spectacles, il n'y a qu'une solution, que la préfecture annule les concerts, estimant qu'ils représenteraient un trouble à l'ordre public, au risque de mécontenter les fans du rappeur, qui semblent nombreux. Le concert du 20 octobre est désormais complet. Une date a même été ajoutée, le 19 octobre.
Antoine Maret, merci beaucoup. L'invité de la séquence interview, le sociologue Michel Auferlet, spécialiste du patronat, parce que le conseil exécutif du MEDEF choisit aujourd'hui son candidat pour la présidence de l'organisation patronale, Marie Viennot.
Bonjour Michel Auferlet.
Bonjour.
Alors d'abord, quel bilan peut-on faire de la présidence de Pierre Gattaz selon vous? Est-ce qu'il a eu un impact sur les décisions économiques qui ont pu concerner les patrons ces cinq dernières années?
Alors je vais vous faire une réponse en deux temps. D'abord, c'est très difficile de faire le bilan de quelqu'un, surtout lorsqu'il est président d'une confédération. Ça veut dire qu'un président du MEDEF, qu'on désigne généralement comme étant le patron des patrons, en fait, a finalement relativement peu de pouvoir. C'est-à-dire qu'il est pris par, d'une part, l'engagement de ses fédérations. Il est donc l'homme des fédérations, d'abord. Un petit peu des territoires aussi. Et puis, il est pris entre eux également, donc, l'appareil même du MEDEF. Il ne choisit pas, si vous voulez, tous les permanents qui sont là, ce qu'on appelle les apparatchiks. Et puis également, il a à côté de lui une autre force qu'on oublie bien souvent, qui est l'association française, donc, des entreprises privées, la FEP, qui regroupe le grand patronat, si vous voulez. Donc, je pense que pour avoir, donc, une espèce d'image, donc, de ce que c'est que, le bilan de quelqu'un, il faut, à ce moment-là, le replacer dans le cadre de la Confédération. Si on veut faire simple et si on veut éventuellement liquider un peu rapidement les préalables, on peut dire que du point de vue interne, il n'y a pas eu tellement de changements. C'est-à-dire que Pierre Gattaz ne s'était pas engagé non plus sur une réforme donc du MEDEF. Pourtant, maintenant, c'est ce qui va se passer, puisqu'il y a toute une série de nouvelles échéances, et notamment donc la baisse de la représentativité du MEDEF qui est à l'ordre du jour. Le deuxième point, c'est du point de vue social. Du point de vue social, d'une certaine manière, Pierre Gattaz n'était pas tellement intéressé par le social. C'est-à-dire qu'il a délégué essentiellement donc le social à ses vice-présidents, soit un assureur, soit éventuellement Alexandre Baudot, Sobo, qui est donc le candidat de l'UIMM dans la présente élection. Et en ce qui concerne donc ce qui l'intéressait le plus, hein, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, il disait, moi ce qui m'intéresse dans ce job, c'est l'économie, c'est de passer des commandes, etc., etc. Et le social, ça m'emmerde un peu, c'est ce qu'il disait, si vous voulez. Bon. Et donc, dans l'économique, alors quelle est la part exacte du MEDEF, si vous voulez, sur la transformation des socialistes? En quelque sorte, les socialistes ont commencé à reprendre un certain nombre de revendications du MEDEF. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Ou est-ce qu'il n'y a pas toute une série d'autres forces qui sont bien au-dessus du MEDEF? Et puis alors, depuis effectivement, donc maintenant un an, c'est différent. Puisque alors là, on a un président qui est franchement du côté donc de la politique de l'offre, de manière avec un clair affichage. Bon, voilà.
Alors justement, pour parler un peu de la représentativité du MEDEF, en 2017, une enquête diligentée par le ministère du Travail a mesuré l'audience du MEDEF. Il y a 123 000 adhérents au lieu des 750 000 revendiqués. On parle beaucoup de crise du syndicalisme des salariés. Est-ce qu'il y a aussi une crise du syndicalisme patronal? Est-ce que les employeurs comptent vraiment sur le MEDEF pour les représenter?
Alors je serais incapable de vous le dire parce que justement le MEDEF reste très mystérieux. Il n'y a presque pas d'archives alors qu'on a pu reconstituer, si vous voulez, les adhésions aux centrales syndicales depuis 100 ans. Là, auparavant, l'ancêtre du CNPF, du MEDEF, le CNPF, affichait 1 million donc, d'adhérents. Donc 1 million d'adhérents avec beaucoup moins d'entreprises, ça fait effectivement donc, une perte d'adhérents. Bon. Alors simplement, donc, il faut savoir que, en fait, bon, à la fois, le MEDEF est bien représentatif de quelque chose, bon, puisqu'il représente donc, les entreprises dans lesquelles il y a le plus de salariés. Mais 126 000 entreprises, bon, qu'est-ce que c'est exactement par rapport, disons, à 2 millions de chefs d'entreprise et à 3 millions d'entreprises? Donc, à la fois, c'est beaucoup, bon, par rapport notamment aux autres centrales de syndicats de salariés, mais également, donc, ça pose toute une série de problèmes, d'autant plus que l'adhésion donc, au MEDEF est une adhésion, d'une part, indirecte. Bien souvent, les adhérents ne savent pas qu'ils sont adhérents au MEDEF. Et deuxièmement, également, c'est une adhésion essentiellement consumériste.
Alors, une dernière question, justement, vous avez un peu évoqué ce point. Est-ce que le MEDEF est en phase avec La République En Marche, les idées de Startup Nation, ou est-ce qu'il fait partie de l'ancien monde pour les marcheurs?
C'est-à-dire que vraisemblablement, les marcheurs leur gardent un drôle d'air, puisque je ne pense pas que véritablement il ait été beaucoup, beaucoup consulté dans les réformes. Également, faut pas oublier par exemple que 100 députés donc, en marche, avec notamment un certain nombre de d'anciens chefs d'entreprise, donc ont lancé, non pas une pétition, mais une espèce d'appel à ce que le MEDEF, justement, change de position par rapport à toute une série de problèmes. À l'heure actuelle, c'est effectivement qu'est-ce que. On retrouve les questions qu'on avait, pourrait-on dire, oubliées depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, notamment après la fin du contrôle des changes, après la fin du contrôle des prix. On se demandait à quoi sert le CNPF. Maintenant, on se demande à quoi sert le MEDEF. Et donc, les candidats qui ne seront pas choisis cet après-midi, c'est une phase préliminaire, si vous voulez, ont appelé à réinventer le MEDEF. Bon, c'est une espèce indirectement d'une critique du mandat de Pierre Gattaz, même si elles n'ont jamais été formulées comme telles.
À quoi peut-il servir alors, pour conclure, quelques mots?
À quoi peut-il servir? Justement, à quoi peut-il servir? Ça dépend justement de la place qu'il va laisser donc aux négociations interprofessionnelles. C'était quand même une grande place, le boulot social du MEDEF. Si à ce moment-là on se retire du paritarisme et si on supprime donc les négociations interprofessionnelles, à moins éventuellement de se transformer en think tank, mais j'y pense peu, à ce moment-là, c'est effectivement de mettre le paquet sur le côté lobby, donc économique du MEDEF.
Voilà, merci Michel Auferlé. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Les patrons des patrons, histoire du MEDEF » aux éditions Odile Jacob.
Merci beaucoup Marie Vienneau. La France continue à vivre au rythme des orages, des inondations avec plus d'un tiers des départements en alerte. Alerte qui concerne la moitié nord du pays, à l'exception de deux départements dans le sud-ouest aussi, donc le Gers et le Tarn et Garonne. En vigilance orange, inondation, température à la baisse sur les deux tiers ouest du pays, 16 à 23 degrés qui resteront tout de même élevés dans l'extrême sud-est. 24 à 29 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.